courte critique par le père Marie-Dominique Philippe, le 17 novembre l'an 2000 à Saint-Jodard.
Pouvons-nous dire que les cinq prédicables sont les modes d'abstraction de notre intelligence? Les prédicables, donc, les cinq prédicables, on dit prédicats parce qu'ils sont attribués. C'est ça que dans notre langage, nous avons la manière dont nous définissons, dont nous décrivons un paysage, une personne, genre, différents spécifiques, espèce, propriété, accident. Il n'y a plus rien après. Bon, ça, il faut le savoir par cœur, c'est de la logique. Hein. C'est élémentaire. Les cinq doigts de la main. Le plus gros. Le plus gros. Le genre. Ex parte matériel. La différence spécifique de la forme, de la détermination. Ça vient toujours de la détermination. Le fruit de l'attribution, différence spécifique au genre, c'est l'espèce. Prenez-le par rapport à l'homme. Bon. Alors, vous pouvez dire qu'en effet, ces cinq prédicables, qui sont nos cinq les universaux que nous avons, sont le fruit, je dirais, sont le fruit des cinq modes particuliers d'abstraction, du passage naturel. C'est naturel, ça. C'est vrai dans toute philosophie. C'est le passage de l'expérience, des cinq modalités d'expérience, à l'universel. Ça se fait automatiquement. Alors, le philosophe va réfléchir pour savoir comment ça se fait. L'expérience me donne une image. Vous avez cinq espèces d'images qui correspondent à ces cinq particuliers expériences, des images où le toucher est particulièrement présent. Il y a des hommes qui sont très tactiles. Vous savez bien, quand on voit une statue, on a envie de la toucher. Et moi, j'ai envie toujours de la toucher. C'est de la pierre, il faut caresser la pierre. Je me souviens, parce que maintenant, dans les musées, quand on touche une statue, ça sonne. Alors, ouais, j'avais touché. Alors, on a dit, ah, vous voulez la voler? Mais non, je ne veux pas la voler. Elle est trop belle. Alors, il m'a regardé. Vous n'avez pas le droit de toucher une statue. Ah, on doit regarder la statue maintenant sans la toucher. Et alors pourquoi l'exposer? On pourrait mettre la photographie. Moi, je veux la toucher. Ah non, on n'a pas le droit. Ah, on est prisonnier du toucher. Et c'est vrai, ça, c'est, on arrive à ça. Il n'y a que la vision. Dans des quantités de choses, d'expériences, c'est la vision. Le toucher, on est de plus en plus loin du toucher. Il ne faut surtout pas toucher. Parce que le toucher, c'est le sens de l'existence. Tant que le toucher n'est pas présent, on ne sait pas si ça existe ou ça n'existe pas. Il y a des hallucinations. Ça va, quand on est très fatigué, on a des hallucinations. On se réveille brusquement, on voit, ah, j'ai vu comme ça des choses étonnantes. C'est très intéressant. L'imagination, c'est quoi? C'est que l'imagination est tellement forte sur l'image qu'on croit que c'est réel. Il n'y a pas de jugement d'existence. Le jugement d'existence. Vous voyez, pour voir si c'est une vraie vision ou une fausse vision, c'est quand même très intéressant. Quelqu'un qui a des hallucinations a des visions. Elles sont fausses. Elles proviennent de ses hallucinations. Elles proviennent de son imagination. Tandis que lorsque c'est une vraie vision, ça ne provient pas de l'imagination. Ça existe. Le jugement d'existence est là pour rectifier. Alors, je veux bien vous dire que les cinq prédicables sont le fruit des cinq modes d'abstraction. Ils sont le fruit. C'est le résultat. Au terme de ces abstractions, de ces cinq modes d'abstraction, vous avez cinq types particuliers pour l'universel. Le genre, différents spécifiques. Alors, vous prenez un exemple. Je suis un animal. C'est pour ça qu'une fois quelqu'un venait, on vous pose ces questions-là. Vous savez qu'on peut savoir, il y a un type particulier de questions qu'on pose. Est-ce que vous acceptez ça, si vous voulez? Quel est l'animal que vous aimez le plus? Alors, je lui ai répondu, tac au tac, moi. Alors, mais vous blaguez. Mais non, je suis un animal et je m'aime plus que tous les autres animaux. Je ne sais pas s'il a compris. Si je blaguais avec lui, genre spécifique, je suis un animal. Mais il y a différents spécifiques. Je suis un animal qui réfléchit, qui pense, qui a l'esprit. Différents spécifiques. Esprit. Espèce, homme. Propriété, capable de rire. Je lui montrais que j'étais capable de rire, parce que je lui disais que l'animal que je préférais, c'était moi-même. Et lui avait la difficulté de comprendre qu'on est capable de rire. Même dans les choses les plus sérieuses, la sagesse joue. Et puis l'accident, la couleur des cheveux, accidentelle. Le vêtement que je porte, accidentel. Et cinq. Les cinq types. Alors, le philosophe se pose la question, d'où ça vient? C'est sûr que ça vient de moi. Saint Augustin dit que c'est l'illumination divine. Alors ça ne vient pas directement de moi, ça vient d'une illumination divine. Avant, Aristote, parce que pour Platon n'a jamais posé ça, c'est l'intuition. Il n'a pas cherché pourquoi l'intuition. Pourquoi j'ai des intuitions et qu'il y a des personnes qui n'en ont pas, qui ne sont pas jamais intuitifs. Et puis les artistes ont des intuitions, et surtout les artistes, des intuitions. Ils saisissent de nouvelles relations. L'intuition, c'est saisir de nouvelles relations, tandis que l'expérience, ceci est. Dans l'intuition, vous ne savez pas si ça existe ou ça n'existe pas. Mais vous savez qu'il y a une nouvelle relation. Ce qui est sûr, c'est que ça vient de moi. Aristote a posé l'intellect agent pour expliquer le passage de l'image à l'universel. Qu'est-ce qui purifie l'image pour saisir dans l'image, c'est l'intelligence qui fait ça. L'universel, c'est le fruit d'une abstraction, d'un type particulier d'abstraction, et c'est l'intelligence. L'animal ne sait pas ce que c'est que homme, différent spécifique, c'est pas. Pourriez le faire en face d'un singe, c'est pas. Il croit qu'on. Il ne sait pas ce que c'est. Tandis qu'un homme, avec le langage, sait tout de suite ce que c'est que l'universel. Quand avez-vous appris l'universel, découvert l'universel? Savoir ce qu'est l'universel, c'est différent. Ça exige une réflexion. Une réflexion assez forte pour découvrir l'universel. Et d'où vient l'universel? C'est l'action de l'intellect agent sur l'image. Vous comprenez? Ceci, Aristote l'a posé pour montrer que l'abstraction était bien de moi et naturelle à ma vie intellectuelle, tout à fait élémentaire à ma vie intellectuelle. Alors, il a distingué dans l'intelligence qui se sert de l'image et se servant de l'image de telle manière, de telle autre, parce que les images de la vision sont autres que les images de l'ouïe. Dans vos rêves, vous avez des images de vision et des images de l'ouïe. Le père Chantre a constamment des visions intérieures sur les images de l'ouïe, parce que son oreille est toujours en alerte. Donc, il doit se former des images qui proviennent de l'homme et qui ne sont pas les mêmes. Ce sont des images dynamiques, de rythme, d'harmonie, qui ne sont pas du tout les mêmes visions que lorsqu'il s'agit de l'œil. Celui qui a le sens très fort, très éveillé au point de vue pictural, c'est toujours des images de vision qu'on voit. Et quand il vous raconte des rêves, ce sont des rêves qui proviennent de l'image picturale. Je peux, un homme qui a un sens très aigu des odeurs, il a l'image particulière attachée à ce que c'est que l'odeur, le goût, le toucher. Oui, alors c'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'il s'agissait de voir que ces images viennent de nous, on les constate. Je constate que, en effet, je pense par le genre. Personne ne m'a instruit de penser par le genre. On vous a appris sans doute, quand vous étiez jeune, le mot animal. Vous êtes familiarisé avec ce mot animal. Vous avez compris, c'était un mot générique. Vous mettez beaucoup de choses dans l'animal. Hein. C'est très vaste. Très étendu. Vous voyez, il y a des gens d'extension qui sont très, très calés pour voir le point de vue de l'extension. Ce sont des gens qui sont particulièrement ouverts à la connaissance générique. Et quand vous regardez les articles dans le journal. Parce que souvent, c'est des articles qui sont faits très vite. Alors, ils sont très instinctifs. Vous avez des gens qui ont un sens très aigu de l'accident. Pas des propriétés. C'est des accidents. C'est un sommet, il n'y a pas de propriété. Ils n'ont pas saisi la propriété. Ils n'ont vu que les accidents. Les choses éphémères qui passaient. Très peu, le genre. C'est une analyse qu'on doit faire, qui est très intéressante de faire ça. Et vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire. Si vous le voyez après, le bonhomme. Il est très porté vers la connaissance générique, l'extension. Il est très porté vers la connaissance spécifique. Celui qui a une intelligence pointue cherche toujours les différences spécifiques, le propre. L'accident, ça va très bien avec le genre. C'est très, très curieux, ça. Vous voyez, c'est la forme fondamentale de notre intelligence humaine. Et on dit, des attributs génériques sont univoques. Les attributs analogiques sont, justement, sont plus univoques, sont analogiques. Il y a un universel univoque, il y a un universel analogique. Oui, deux niveaux de connaissance. Une connaissance fondamentale qu'on ne peut pas quitter. Elle est toujours là. Par genre, différence spécifique, fondamentale. Puis, quand vous avancez dans des connaissances scientifiques, ah, elles sont toujours analogiques. Et au sommet, vous avez l'analogie de l'être que le philosophe seul emploie. Alors, on va regarder comment naît ces deux l'universel générique, l'universel commun et l'universel analogique. Quand vous avez saisi ce qu'est la ratio entis, la raison d'être, vous avez un concept d'être. Ce concept d'être, première année de philosophie, est très générique. Dernière année de philosophie, votre concept d'être est beaucoup plus analogique. Vous comprenez que saisir l'être, c'est pas saisir un genre. L'être se dit de chaque individu d'une façon unique. Et c'est toujours l'être. Donc il y a une diversité beaucoup plus grande dans l'être que dans animal. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui ne sont pas les animaux, les plantes, les pierres. Ça existe. Alors, le mot être signifie quelque chose au-delà de tous ces genres. Le genre animal, le genre végétal, le genre physique, la réalité physique, la pierre. Vous voyez comment, progressivement, mon intelligence toujours à partir d'une image. Une image très simple, n'importe laquelle. Hein. Vous avez saisi le genre, les différents spécifiques, donc les cinq, l'universel, générique, univoque. L'universel spécifique, univoque. Quand vous dites l'homme est un animal, vous regardez la signification de animal qui est la même pour l'homme que pour la vache. On s'en aperçoit souvent. L'homme a de la vache en lui. Vous dites espèce de vache. Et vous attribuez à homme le mot générique et là, animal. Tandis que quand vous attribuez à l'homme, il est, être est un concept universel, puisque vous pouvez l'attribuer à tous, mais qui se diversifie bien plus qu'animal. Parce qu'il prend tout ce qui est, même Dieu. Il a une attribution, universalité, beaucoup plus grande, qui est analogique. Et l'analogie a d'abord été trouvée au niveau de l'attribution. Ça, il faut faire attention à ça. L'analogie a été découverte d'abord au niveau de l'attribution. Et analogique, c'est opposé à univoque. Univoque, c'est la signification du mot, quand on parlait d'un mot univoque, c'est la signification du mot, le même mot et la même signification de ce mot. Animal, c'est un mot univoque, puisqu'il regarde tous les animaux, même l'homme, c'est le même mot, et c'est la même signification qui est attribuée à l'homme, à l'animal, à moi-même. Et donc, vous parlez d'attribution univoque. Le mot « être », puisqu'il y a un mot, il y a un concept particulier d'être. C'est la saisie de la ratio entis, la raison d'être. Cette raison d'être est attribuée à tout, même à Dieu. Vous passez du fini à l'infini. Cette attribution n'est pas limitée en elle-même. Tout ce qui est être, c'est sûr. Donc une attribution extraordinairement étendue, qui n'est limitée par rien, si ce n'est le non-être. Le non-être n'est pas. Donc il n'est pas être. Je ne peux pas chercher la signification de l'être dans le néant. Il n'y a que le néant qui échappe à l'être. Et le néant, est-ce que ça existe? Non. Si ce n'est que dans votre imagination, vous imaginez le néant. Mais vous n'avez jamais expérimenté le néant. Jamais. Vous n'expérimentez que ce qui est, que ce qui existe. Le néant, vous ne l'avez pas expérimenté. Vous avez donc inventé le néant, puisque le néant n'est pas. Non, je ne dis pas que j'ai inventé, j'ai affirmé que ceci n'est pas. Alors, quand vous dites « ceci n'est pas », vous affirmez qu'il n'existe pas, qu'il est rien. C'est votre intelligence, par la négation sur l'être, vous dites, ceci n'est pas, donc, est rien. Et votre intelligence invente le non-être. C'est la seule chose que vous pouvez inventer, le non-être. Et ça joue beaucoup, puisque Sartre fait que le non-être est avant l'être. Donc, que votre intelligence est avant Dieu. Vous pouvez imaginer le non-être. Donc, vous voyez que je suis capable d'affirmer 5 modalités de l'être univoque. Je suis capable d'affirmer que certaines notions ne sont pas univoques et ce sont des notions analogiques, c'est-à-dire totalement diverses, ayant cependant quelque chose de commun. Quand je dis « la pierre existe, cette pierre », et quand je dis « Dieu est », vous comprenez que l'existence de Dieu et l'existence de cette pierre est très différente. Elle est totalement différente. Et cependant, il y a quelque chose de commun, puisque vous dites, il est. L'analogie à la différence, l'attribution analogique de l'être, à la différence de l'attribution univoque. L'attribution analogique a donc ce pouvoir d'unir dans un même langage, tout en diversifiant, l'être et le non-être, par la force de la négation. La négation divise. Alors, l'abstraction universelle, c'est l'abstraction du genre, de la différence spécifique, de l'espèce. Elle est bien connue, celle-là. Nous pouvons la saisir. L'abstraction formelle, ce sont les mots que Thomas d'Aquin emploie, sans donner d'explication. Et je me suis demandé, en critique, qu'est-ce que c'est que l'abstraction formelle, qu'est-ce que c'est que l'abstraction formelle, qu'est-ce que c'est que l'abstraction universelle, qu'est-ce que c'est que l'abstraction formelle. Bon, l'abstraction universelle existe toujours dans ma pensée. Je pense toujours. En atteignant l'universel générique, l'universel, toujours, ils sont toujours là. Mais je peux les dépasser grâce au jugement d'existence. Je peux à ce moment-là dire je m'occupe uniquement de telle chose. Je peux m'occuper uniquement de la lumière. Je peux rechercher ce qu'est l'animal. Alors, quitter l'aspect univoque pour comprendre sa quiddité, ce qu'il est en lui-même. Et quand je fais ça, je formalise ma pensée sur un point particulier, laissant de côté tout le reste. Dans toute abstraction formelle, il y a un jugement qui discerne exactement ce que je veux chercher. Toute science implique l'abstraction formelle. Dans l'abstraction mathématique, je ne veux chercher que l'être mathématique. Et je n'atteins que l'être mathématique. Ce ne serait pas les mathématiques autrement. Et je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être mathématique ? Est-ce que l'être mathématique existe dans la réalité ? À côté de vous, il y a une chaise qui est vide. Donc, je peux y installer l'être mathématique. L'être mathématique n'existe que dans mon intelligence. Donc, il ne peut pas exister sur la chaise qui est à côté de moi. Il n'existe que dans l'intelligence du mathématicien. Existe-t-il dans l'intelligence de Dieu ? Ah. Grave question. J'ai le droit de me poser la question en critique. Est-ce que l'être mathématique existe dans l'intelligence de Dieu ? Est-ce que vous avez le droit de dire que Dieu est un mathématicien ? Non. Dieu comprend les mathématiques, mais l'être mathématique n'est pas dans l'intelligence de Dieu. L'intelligence divine a une acuité telle qu'il comprend tout ce qui est, tout ce qui existe et tout ce qui est pensé. Vous n'avez pas de secret pour Dieu. Vous voudriez en avoir si vous péchez. Le pécheur voudrait que Dieu ne s'occupe pas de lui, que Dieu ne connaisse pas ce qu'il pense. Mais le mathématicien chrétien, ça lui est égal, au contraire, tant mieux que Dieu s'occupe de moi et qu'il connaît mes études mathématiques. Elles ne sont pas hérétiques, elles sont mathématiques. Est-ce que je peux baptiser l'être mathématique ? Non. L'être mathématique n'existe que dans l'intelligence du mathématicien. Et Dieu, connaissant le mathématicien, connaît tout ce qu'il pense. Donc il connaît l'être mathématique, mais pas directement, par le mathématicien. C'est curieux que l'intelligence est capable de se donner un objet formel. Et quand on dit que l'intelligence est capable de se donner un objet formel, c'est-à-dire n'étudier que cela. C'est ce que dit le savant. Quand vous allez chez un médecin, que vous avez mal au foie, et il vous dit, allez voir le spécialiste. Il voit tout à travers le foie. Et c'est ça le spécialiste. Il voit tout à travers ce qu'il étudie. Et il étudie rien d'autre. Abstraction formelle. L'abstraction formelle se précise toujours par un jugement. Et je peux étudier ce qu'est l'abstraction formelle, par exemple, pour l'étude de l'astronomie. Je peux préciser l'abstraction formelle chez tel médecin particulier. Il s'est spécialisé pour l'œil. Je peux me spécialiser sur l'œil. Et je ne connais pas les autres organes. Ça m'est égal. C'est l'œil qui m'intéresse. Et c'est très curieux quand on voit un savant qui ne s'intéresse qu'à l'œil. Il a tout à fait le droit. S'il veut se spécialiser, aller de plus en plus loin, il ne regardera que cela. Alors, l'abstraction formelle, là, j'en ai conscience. L'abstraction universelle, elle est naturelle, instinctive. J'en ai conscience dans le fruit, puisque je peux dire fruit d'une abstraction générique. Fruit d'une abstraction spécifique. Saisir tel aspect particulier dans l'abstraction universelle totale. Et c'est pour ça que la scolastique a parlé du troisième degré d'abstraction. En réalité, il n'y a pas le troisième degré d'abstraction, puisque vous avez, vous avez l'abstraction universelle. Pour eux, c'est ce qu'ils disaient, l'abstraction mathématique et l'abstraction formelle du philosophe. En réalité, vous avez l'abstraction universelle pour tout le monde, dans toutes les langues. Dans toutes les langues, même le chinois. Oui, parce que c'est particulier, hein. Une abstraction universelle. Mais l'abstraction formelle, mathématique, elle est vraie pour chaque science qui se spécialise et qui a son abstraction formelle. Et puis vous avez au sommet l'abstraction la plus forte, c'est l'abstraction du philosophe au point de vue métaphysique. Je veux tout regarder sous le point de vue de l'être. Je dis bien que c'est l'abstraction la plus universelle parce que tous les transcendentaux, les cinq transcendentaux, il y a les cinq prédicables, les cinq transcendentaux. Les cinq prédicables, c'est fondamental. Les cinq transcendentaux, c'est le sommet de mon intelligence. Les cinq transcendentaux, saint Thomas étudie ça dans le De Veritate, question 1, article 1. C'est un article qu'il faut avoir lu. De Veritate. Bon. Une âme charitable a traduit ça, je ne sais pas si elle est à la bibliothèque, elle avait traduit les cinq transcendentaux de saint Thomas pour tous ceux qui avaient de la peine à lire le latin, qu'ils puissent le lire tout de suite. Parce que c'est important, les cinq transcendentaux. Les cinq transcendentaux, c'est par rapport à res, unum, aliquid, verum, bonum. Vous avez cinq notions analogiques qui sont convertibles avec l'être. Donc, qui ont la même extension que l'être. Et la même intensité. Mais qui cependant ajoute quelque chose. En latin, c'est res, unum, aliquid, bonum, verum, bonum. Res, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est. Il y a un concept de ce qui est. Le bien, existant, ce qui est. Udum, indivision, ce qui ne peut pas être divisé. On le sait, on le connaît négativement. Aliquid, c'est quelque chose qui a son autonomie, distinct des autres et un en soi. Verum, c'est le bien de l'intelligence. Bonum, c'est le bien du sujet. Oui. Alors, il y a un problème qui est très curieux. Pourquoi y a-t-il 5 transcendentaux, 5 prédicables ? Alors, on a essayé, hein, les scolastiques ont cherché, est-ce que le beau est un transcendantal ? Le beau est une notion analogique, mais n'est pas un transcendantal. C'est une notion analogique. Est-ce que le parfait est une notion transcendantale ? Non. C'est une notion analogique et pas transcendantale. Donc, le transcendantal, c'est convertible avec l'être. Le vrai est convertible avec l'être. Le bien est convertible avec l'être. Et les qualités particulières de l'être, c'est d'être res, aliquid, et un. Ces notions transcendantales sont présentes dans la philosophie. Et commande l'abstraction philosophique. Les 5 notions transcendantales convertibles avec l'être, c'est-à-dire que je l'ai, dès que j'en parle, l'être est présent. Le jugement d'existence est là présent. Le jugement d'existence est présent dès que vous parlez de res, aliquid, unum, bonum, verum. Toujours. Et vous essayez d'atteindre l'être dans ses 5 faces particulières. L'être, il est. L'être, est un. L'être, il se distingue des autres. L'être est vrai, l'être est bon. C'est les 5 transcendantaux. Mais vous voyez, les 5 transcendantaux sont le fruit d'une critique. Je n'ai pas ça naturellement. Hein. Je ne nais pas en disant, maman, 5 transcendantaux, 5 doigts. Alors, main gauche, main droite. Les 5 transcendantaux et 5 prédicables. C'est curieux. Et tout ça, c'est à cause de nos sens. Notre intelligence est une intelligence qui dépend de l'expérience et qui ne peut jamais s'en séparer. Mais elle dépasse l'expérience. Et elle peut penser les transcendantaux.